Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
Le seul et unique Félix Séguin. Salut Félix.
Salut, salut, au lendemain du spectacle d'Olivia Rodrigo, auquel ma fille a assisté au Centre Bell. Mon Dieu, c'était son premier spectacle, toute seule, ben, en tout cas avec ma blonde. Franchement, je sais pas pourquoi je te parle de ça.
Ben oui, j'allais dire, tu nous fais-tu une chronique culturelle?
Je suis vraiment tout content. Écoute, elle était à quelques mètres d'Olivia Rodrigo. Elle m'envoyait des vidéos. Elle criait pendant 2 heures pour ce spectacle qui, ma foi, avait l'air merveilleux. En tout cas, je voulais juste partager ce
petit
moment.
T'étais juste fière de voir que ta fille était autonome et capable d'aller quelque part sans toi, peut-être.
Aussi.
Hey, dis-moi, beaucoup de choses dans l'actualité policière et criminelle. On va d'abord parler de cette frappe policière à Québec. Parce que là, il y a plusieurs membres des Hells Angels qui viennent d'être arrêtés.
Ah oui, entre autres, le fameux Mario Auger. Mario Auger, là, si tu te rappelles pas, c'est qui? C'est le fameux Banane Auger, là, auquel les gens qui se faisaient torturer dans cette résidence de Saint-Malachie il y a plus d'un mois leur référaient. Alors, le Hells Angels, Mario Auger vient d'être arrêté. Le Hells Angels, Marc Roberge, surnommé Marco Roberge, on repassera pour l'originalité des surnoms, mais c'est une opération quand même d'envergure qui est menée par l'Enerco à Québec. L'Enerco, là, si vous voulez savoir c'est quoi, c'est comme une unité d'élite de la Sûreté du Québec qui s'attaque aux têtes dirigeantes du crime organisé. Donc, les gros joueurs de la mafia, les gros joueurs des différentes PEG Moyen-Orientale, entre autres, et évidemment, des motards hors-la-loi. Alors, c'est intéressant parce que, tu sais très bien, Isabelle, qu'à Québec, il y a ce contexte de la guerre des stupéfiants. C'est un peu calmé, d'ailleurs, depuis quelques semaines, depuis que les policiers se sont attaqués au fameux BFM, le Blood Family Mafia, le gang de Dave Turmel. Et là, on s'attaque aux Hells Angels. Alors, tu vois, on voit bien que, devant la loi, toute organisation criminelle est égale. On pouvait pas privilégier de s'attaquer au gang de Dave Turmel sans s'attaquer également à la plus grosse organisation criminelle en termes de membership de la planète, les Hells Angels. Alors, c'est en train de se faire là, à une quinzaine d'endroits à Québec.
Et puis, il pourrait y avoir d'autres arrestations, d'ailleurs, étant donné que ce n'est pas terminé, cette opération de l'escouade nationale sur la répression du crime.
Oui, c'est sûr. C'est pas fini.
Voilà. Il y a celle-là qui a frappé. Il y a également la GRC qui a fait des frappes majeures à Montréal. Près de 400 policiers, je pense, qui ont été mobilisés pour ça, Félix.
Ouais, avec tout le poids de la police fédérale, Isabelle, qui ne lésine devant rien là pour mener ces opérations, qui historiquement sont des opérations qui sont toujours assez longues. Hein, à la GRC, ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur cette opération qui est baptisée Chrome. C'est une opération conjointe et c'est important de le mentionner parce que ça nous donne un peu le canevas là de sur quoi les policiers travaillent avec l'Agence des services frontaliers du Canada, l'Agence du revenu du Canada, l'unité mixte des produits de la criminalité l'UMECO, l'unité mixte d'enquête sur le crime organisé. Ce que ça nous dit, bref, c'est que c'est comme une enquête à 360 degrés. Là. On a le clan Lopez qui a été frappé. Le clan Lopez...
C'est ça.
Isabelle, de tous les importateurs de, drogue,
surtout
cocaïne. Les Lopez sont considérés, c'est même une question générationnelle, parce que le patriarche là, de la famille Lopez, les neveux Lopez sont considérés depuis plus de 40 ans comme des gens qui ont des plus importants contacts en Colombie, au Pérou, au Mexique, pour importer de grosses quantités de drogue.
Puis le clan Lopez qui a été touché là, par ces frappes.
Oui. Puis quand je dis le clan Lopez égale quantité énorme de stupéfiants, c'est que eux sont capables d'acheminer à Montréal des quantités à la tonne de cocaïne, pas juste à la centaine de kilos, à la tonne. Donc c'est énorme comme organisation. Et puis donc et quand on a frappé, Oui, quand on a frappé hier, Isabelle, c'est quand les 400 policiers se sont rendus dans particulièrement le nord-est de Montréal, là, frappé des endroits liés au clan Lopez, on a réalisé qu'il y avait des immeubles qui leur appartenaient. Ben, nous, on le savait, en fait, là, mais le grand public l'a réalisé. Mm-hmm. C'est un clan qui est assez méconnu, mais des immeubles, des compagnies de construction, des restaurants, des débits de boissons. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sous l'angle de l'infiltration de l'économie légale en blanchiment d'argent. Il y a un volet de l'enquête qui concerne les crypto-monnaies également. Alors, c'est gros. Il n'y a pas eu d'arrestation parce que c'est des perquisitions en cours d'enquête. Mettons ça sur la faute de l'arrêt Jordan. Maintenant, les policiers recueillent le plus de preuves possible pour divulguer d'un tas la preuve au procureur des accusés quand ils sont accusés pour éviter de faire courir les délais judiciaires puis incidemment qu'ils soient libérés parce que les délais sont indus.
Oui, c'est là où on voit que c'est du crime organisé, très, très, très organisé, oh, là, oui, Félix. Oui. Tu sais, parce que là, dans le fond, ça a été une vingtaine de perquisitions dans des, entre autres, des commerces, comme tu viens de le dire. On a vu quelques images, d'ailleurs, sur nos ondes. Mais ce clan Lopez, tu le disais avec Justin, moi, on en entend pas vraiment parler, là. On sait, c'est des frères, c'est ça? Je pense qu'il y en a un qui a été tué à un moment donné en République dominicaine, je pense, l'année dernière. On a de l'information sur eux?
Ben oui, en tout cas, moi, je veux dire, pour les gens qui suivent les activités criminelles puis la criminalité transfrontalière de très près, là, dont je suis avec certains collègues, on les connaît depuis mm-hmm. des années, le clan Lopez. On sait même que la famille Lopez est l'un des seuls clans qui n'avait pas, à l'époque, de taxes à verser à Vito Rizzuto. Puis c'était assez rare parce qu'il rendait des services impayables presque là, à Vito Rizzuto, ce qui fait que le patriarche défunt de la mafia les a laissés opérer sans leur charger cette fameuse taxe qu'on devait lui payer d'une part. D'autre part, aussi, il y a eu un peu, je dirais, d'animosité entre certains membres du clan Lopez. Le patriarche était un peu échaudé de la façon dont se comportaient les neveux Lopez. Il y a eu donc du rififi dans la famille Lopez. Ça a peut-être aussi permis, pense-t-on, à la GRC de s'attaquer à ce clan-là parce qu'en profitant aussi des querelles qui rongeaient l'intérieur du clan.
Et on va passer rapidement, Félix, mais c'est une nouvelle importante quand même, parce qu'il y a toujours fraude à la PCU, la fameuse PCU dont on a beaucoup parlé, parce que c'était une aide pendant la pandémie pour tous ceux qui perdaient leur emploi. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des travailleurs du gouvernement qui en ont profité alors qu'ils n'auraient pas dû. Et là, les enquêtes se poursuivent par l'Agence du revenu du Canada qui attrape d'autres gens, finalement, qui ont abusé.
C'est ma marotte, moi, ce dossier-là, parce que avec Richard, j'en parle souvent, parce que quand la PCU a été rendue disponible par le gouvernement de Justin Trudeau, les fonctionnaires, ça avait fait l'objet d'un texte, d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, avaient reçu l'ordre, s'ils avaient des soupçons que quelqu'un tentait de les détrousser, de les frauder, qui demandait la PCU, qu'il n'y avait pas droit, on avait transmis la note aux fonctionnaires de mettre ça sur la pile de droite, puis d'enquêter ça plus tard, tu vois. Et là, moi, je me disais, mais voyons, est-ce qu'ils vont vraiment, plus tard, revenir chercher ces gens-là puis leur demander ce qu'ils avaient reçu alors qu'ils n'y avaient pas droit? Ben, écoute, ça fait déjà 2 ans que j'ai fait une demande d'accès à l'information là-dessus. J'ai pas encore eu la réponse. Puis aujourd'hui, on sait que en plus des gens qui n'y avaient pas droit, qui sont pas des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada qui ont été, eux, congédiés parce qu'ils ont demandé la prestation canadienne
d'urgence. Peux-tu croire? Ah, moi, c'est
alors
moi, ça,
qu'ils
là.
Travaillaient.
Ouais. Ouais.
Incroyable.
Parce qu'on se souvient là, que c'était 2 000 $ que tu recevais par mois si tu avais perdu ta job à cause de la pandémie. Mais on dit que c'est 1,2 milliard de dollars qui auraient été comme ça détournés frauduleusement par des employés qui n'auraient pas droit et que ça a touché 680 000 personnes qui ont reçu à tort, c'est-à-dire soit que c'était une erreur du fédéral, il y a eu des erreurs qui ont été faites, ou soit ils ont abusé et donc c'était des fraudeurs. Hey, c'est pas rien, 680 000 personnes.
Ben non, mais...
Là, c'est pas 22 qui vont faire la différence, là, 22.
Non, Puis écoute, les moi là, ce qui m'échoue, c'est que cynique, effectivement, on pourrait employer ce terme-là. Mais tu sais, les 232 fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada qui ont été congédiés pour avoir indûment touché cette prestation-là, c'est ceux qui étaient en charge de la remettre. Tu sais, je veux dire, c'est quand tu as en tes mains une possibilité d'appliquer une loi ou des sanctions, puis que tu profites de ces mêmes... de ce même système-là, de ces mêmes sanctions. Pour moi, c'est aussi grave qu'un policier qui se fait prendre pour vendre de la cocaïne.
Ben,
c'est comme un délit. Il y en a eu un qui a été pris à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a 2 semaines. Pour moi, je suis dans le même problème moral, si tu veux, quand je réfléchis à cette affaire.
Mais tu as tout à fait raison. C'est pire. Mais moi, je trouve ça... Mais ils doivent connaître tellement le système. Ou ce sont des grands optimistes naïfs, ces employés-là, qui ont abusé en se disant... On ne pognera pas, ou bien c'est des gens qui connaissent tellement le système qu'ils savaient on ne pognera pas. Tu comprends? Dans les deux cas, ils étaient sûrs de ne pas se faire pogner.
Le cynisme.
Voilà. Oui. Hey, Félix, Séguin, toujours un plaisir.
Plaisir. Au revoir.
Au revoir. Bye.